Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Vous connaissez sans doute Jacques Séguéla, le publicitaire célèbre pour avoir fait la campagne de François Mitterrand en 1981, la fameuse Force tranquille. Eh bien, c'est un petit bout de son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui devant lui, puisqu'il est là. Bonjour Jacques Séguéla.
Bonjour, quel bonheur d'être là.
En 1958, vous aviez alors 25 ans, et avec l'un de vos amis, Jean-Claude Baudot, vous vous êtes lancé dans un tour du monde en deux chevaux. Ça vous a pris 13 mois. Vous avez parcouru 100 000 km, vous avez vécu des tas d'aventures absolument incroyables, et en rentrant, vous avez écrit un livre qui, en 1960, a été un best-seller, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, « La Terre en rond », paru à l'époque aux éditions Ouest France, et réédité d'ailleurs 30 ans plus tard, en 1990. C'est un livre qui a donné des ailes et le goût de l'aventure à toute une génération, et que je vais revisiter maintenant. C'est une histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je sais ce que vous allez me dire. C'est parce que c'est Séguéla qui nous raconte cette histoire. Le communicant de Mitterrand, la force tranquille. Il y en a eu d'autres qui ont fait le tour du monde, à pied, à cheval ou en voiture. On n'en a pas fait toute une histoire. Il fait ça parce que c'est Séguéla, copain, coquin. Eh bien, pas du tout. Je vous raconte cette histoire parce que l'air de rien, faire le tour du monde en Deutsch, en 1958, c'était un petit exploit. À l'époque, le monde n'était pas grand ouvert comme aujourd'hui. Faire le tour du monde, c'était partir sans savoir où on allait. Du tout. C'était une petite folie. Et je crois bien que ça a changé leur vie, à tous les deux. Alors je vous embarque. Prenez la machine à remonter le temps, octobre 1958. Vous y êtes ? À Perpignan, c'est là qu'habitent Jacques Séguéla, et son pote de toujours Jean-Claude. Jean-Claude Baudot, 25 ans tous les deux. Jacques est en dernière année de pharmacie, et Jean-Claude termine ses études de droit. Ils sont au bord d'entrer dans la vie active. Et ils se sont mis en tête de faire le tour du monde en deux chevaux.
En deux chevaux ? Mais tu vas avoir ton doctorat cette année ? Qu'est-ce qui te prend ? Partir faire le tour du monde maintenant ? Eh ben oui, maintenant. Pour voir, pour changer, pour prendre l'air d'ailleurs, pour connaître des gens qui vivent là où on ne vit pas. Mais la France, ça te suffit pas, la France. T'as tout à découvrir en France. Pff, la France, si tu réfléchis bien, Bordeaux ressemble à Lyon. Dupont et Durand parlent toujours des mêmes sujets, dans la même langue. C'est rasoir. Tu sais quoi, moi, les blés de la Beauce et les vignes de l'Hérault, je trouve ça trop plat. C'est trop plat.
Le jeune Séguéla a réussi à embrouiller la faculté. Il profitera de ce voyage pour étudier les plantes médicinales et il en fera le sujet de sa thèse. Ça rassure les parents. Mais il est probable qu'il passera plus de temps à bricoler son carbu qu'à jouer les herboristes. Mais passons. Ah, un détail qui va vous amuser. Avant de partir, ils se font enlever l'appendice, tous les deux, pour ne pas se retrouver avec une appendicite à Babelwed. Et la deux chevaux, alors ? Pourquoi elle ? Oh, c'est simple, hein. La Deutsch, ça consomme très peu d'huile et peu d'essence. C'est une voiture rustique et facile à réparer, avec un nombre limité de pièces détachées. Et surtout sur une Deutsch, il n'y a pas de radiateur. C'est une voiture à refroidissement à air. Et disons que ça fait un problème de moins. Et bien évidemment, le publicitaire sommeillant déjà chez Séguéla, ils ont essayé de s'en faire donner une, par Citroën. Un type qu'est Javel leur a montré une liste longue comme le bras d'aventuriers. Ils n'étaient pas les seuls à avoir eu cette idée. Et donc ils ont dû se la payer eux-mêmes. Une deux chevaux 425 cm3 de type PO, qu'ils ont aménagé. Double cardan, deux réservoirs supplémentaires, des phares anti-brouillard, un poste de radio, un thermomètre, un altimètre et même une prise pour le rasoir électrique. Un vrai petit vaisseau. Alors, par où vont-ils passer? Ils ont prévu un trajet en zigzag. De Paris, ils vont descendre tout droit jusqu'en Afrique du Sud. Et puis là, ils vont traverser en bateau jusqu'au Brésil. Et après, ils remontent tout le continent américain vers le nord. Et ensuite, ils s'attaquent à l'Orient, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Et après, ils rentrent. Ça doit faire dans les 100 000 bornes. Un an de voyage minimum. En deux chevaux. C'est gonflé. Jacques et Jean-Claude partent de Paris du Salon de l'Auto le 9 octobre 1958. 4 jours plus tard, ils embarquent à Port-Vendres, près de chez eux, dans un bateau pour l'Algérie qui à l'époque est encore française. Et ils débarquent à Alger, où ils prennent la route du sud vers Tamanrasset. Au début, elle est goudronnée, et puis très vite, c'est le sable. Ils viennent d'atteindre le Sahara. Ils voulaient voir autre chose. Ils sont servis. Nous nous sommes tus. Comment voûtés par ce paysage immuable. Lorsque vient le crépuscule, l'immensité des sables est une gigantesque fresque abstraite que nous admirons sans la comprendre. Le Sahara signe aussi leur première galère, leurs premiers ensablements, leurs premiers mirages. Et leur première tempête de sable. Elle arrive, d'un coup. Alors ils s'arrêtent, ils se calfeutrent dans la voiture, et ils attendent. Et la tempête dure 2 heures. Et d'un coup, elle retombe. La Deutsche est complètement ensevelie. Allez les gars, il n'y a plus qu'à creuser pour la sortir de là. Je vous rassure, ils vont en voir d'autres. Et à Ingezam, encore plus au sud, il tombe sur un Touareg seul, qui vient de passer 6 mois à garder un poste militaire et qui rentre chez lui, dans sa tribu, à quelques centaines de kilomètres au sud. Physiquement, le type est absolument incroyable. Il fait plus de 2 mètres, au moins 2 mètres 10. Il a un turban bleu sur la tête, une grande djellaba bleue et un couteau attaché à la ceinture. Et le visage, dur, comme taillé dans du bois. Vous savez comment il s'appelle, le Touareg? Il s'appelle Albert. Le type s'appelle Albert. Et ils lui font une petite place à l'arrière de la Deutsche, et les voilà repartis avec Albert plié en deux. Albert qui baragouine 3 mots de français, mais qui connaît le désert. Et qui s'avère très coquet. De temps en temps, il sort un petit miroir comme ça. Il se regarde, il se recoiffe et il dit « Ok ?» L'air de dire « Est-ce que ça va comme ça ?» 400 kilomètres plus tard, les voilà dans sa tribu, au Niger. Et Albert les invite pour un méchoui de gazelle, fier de montrer aux hommes de sa tribu sa dernière trouvaille, 2 Français et leur Deutsche. Et là, Jacques et Jean-Claude décident de rester quelques jours. Et au soir du 3e jour, ils sont réveillés en pleine nuit, par des bruits métallique. Il passe une tête incroyable. 2 Touaregs sont en train de se battre en duel, avec des épées énormes, des takubas. Et à un moment, l'un d'eux donne un coup puissant et son takuba s'abat sur le poignet de l'autre, tranché net. Le poignet pend par un lambeau de chair. Nom de Dieu. Et c'est pas fini. Le type, avec une seule main, continue de se battre et il parvient à toucher son adversaire à l'épaule et là, les 2 s'écroulent sur le sol. Tu crois qu'ils sont morts? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Jacques et Jean-Claude décident d'aller chercher un médecin en 2 chevaux dans un village voisin.
Docteur! Docteur, faut venir vite. Il y a 2 Touaregs qui se sont battus à l'épée. Il y en a un qui a le poignet tranché et l'autre qui a pris un coup sur l'épaule. Bon, vous inquiétez pas, va. Ça arrive. Laissez-moi donc dormir.
Eh bien, vous n'allez pas le croire. Ils recroisent les 2 Touaregs 2 jours après. Ils sont en pleine forme. Leurs blessures sont couvertes d'un cataplasme, une pâte d'herbe broyée, aucune infection. Le moignon de celui qui s'est fait trancher la main est déjà en train de cicatriser. Et le plus incroyable, c'est que tous les deux sont en route pour aller se constituer prisonniers. Car en France, les duels sont interdits. Et à cette époque, le Niger, bah c'est la France. Au bout de 6 jours, Jacques et Jean-Claude reprennent la route. Ils passent le Cameroun, le Tchad, et fin novembre, les voilà au Congo belge. Et là, ils s'enfoncent dans la forêt équatoriale. Et au milieu de cette forêt, ils tombent sur un panneau. Attention, à 50 km, village pygmée. Des pygmées. Il faut s'imaginer ce que représentent les pygmées dans l'imaginaire de deux jeunes Français en 1958. Des demi-sauvages. Quelque chose entre l'homme et le singe. Et donc, ils recapotent la deux chevaux et ils abattent les vitres.
Tu penses qu'ils sont dangereux, ces pygmées ? Bah, j'en sais rien. Mais prends ton fusil, va. Au cas où.
Et ils avancent la peur au ventre. Et là, nouveau panneau. Attention, à 25 km, village pygmée. La tension monte. Et les voilà qui arrivent au village, où ils pensent tomber sur des indigènes dangereux et farouches. Ils aperçoivent de petits bonhommes qui entrent et sortent de cases minuscules. Et puis, un nouvel écriteau, beaucoup moins exotique. Parking. Un pygmée s'approche de la voiture. Un grand sourire édenté, et il leur explique le programme.
Pour prendre photo, 1000 francs. Et pour danse rituelle, 5000. Faut payer d'abord.
L'aventure. Un attrape-touriste, plutôt. L'avantage, c'est qu'il y a un hôtel tenu par un Belge qui sert un menu peu exotique. Thon à la gelée de citron, haricots verts en salade, côte de porc panée macédoine de légumes et fraises des bois à la crème fraîche. Véridique. Au beau milieu de la forêt du Congo, pile à l'équateur, en 1958. Une semaine plus tard, les voilà en Union sud-africaine, à Johannesburg. Ils installent leur campement dans les faubourgs et au réveil, très mauvaise surprise. Leurs deux chevaux a été pillé, la capote découpée, les valises éventrées. Les garçons se retrouvent en pyjama. Ils n'ont plus que ça. Plus d'argent, plus de vêtements, plus de matériel, plus rien. Juste leur lit de camp et leur pyjama. Et sur le plancher trône un guide touristique qu'on leur a donné quand ils ont passé la frontière. L'hospitalité sud-africaine est légendaire. Partout, vous trouverez le meilleur accueil. Rassurez-vous, au consulat de France, ils récupèrent de l'argent et leurs papiers. Et ils repartent direction le Cap, où ils vont prendre le bateau pour Rio de Janeiro. Et fin décembre, ils sont prêts à embarquer. En Afrique, ils ont traversé 12 pays, parcouru 16 000 kilomètres. La Deutsche a tenu le coup. Maintenant, place à l'Amérique. Et le 7 janvier 1959, après 10 jours de mer, Jacques et Jean-Claude voient surgir de la brume le pain de sucre et les immenses buildings de Rio de Janeiro. Et ils ne vont pas traîner à Rio. Ils veulent aller tout de suite à Sao Paulo. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que pendant la traversée depuis l'Afrique, sur le bateau, ils ont, comment dire, sympathisé avec deux jeunes filles japonaises qui habitent justement à Sao Paulo. Elles leur ont laissé une petite carte de visite avec une adresse. Ils y vont tout droit. Et dans le quartier japonais de Sao Paulo, ils tombent sur une blanchisserie où travaille toute une armée de Japonais, 25 au moins, parmi lesquels un petit monsieur, âgé. Jacques lui tend la carte de visite. Il affiche un large sourire.
Naiko Kazuko.
Et là, surgissent les deux japonaises du bateau. Heureuses comme tout, ce sont les filles du monsieur. Le soir, ils ont le droit d'inviter les deux jeunes femmes au restaurant. Et le père les invite à dormir dans la cave de la blanchisserie. Et au petit matin, ils vont pour dire au revoir au père et aux filles. Mais le petit vieux leur fait non de la main.
Naiko, why for you, you is man. Kazuko, why for you, hein? You, Husband.
Le père veut les marier à ses filles.
Sorry, it's not possible.
Et là, ils vont vers leurs deux chevaux pour se carapater. Et là, ce sont les frères qui leur disent. Non, vous ne pouvez pas partir. Sympathique, hein? Ils sont taillés comme des culturistes, des épaules de déménageurs bretons. Écoute, on va peut-être pas les contrarier, hein? On partira cette nuit. Alors la nuit, quand tout le monde dort, à pas de loup, ils se dirigent vers leurs deux chevaux pour se faire la malle. Mais vous n'allez pas le croire, la deux chevaux est attachée par le pare-choc à la grille du balcon, avec une chaîne et un cadenas énorme. Impossible de partir. Ils sont prisonniers. Et pendant 5 jours, vous entendez 5 jours, ils essayent de convaincre le père de les libérer. Et à la fin, ils n'ont pas le choix. En pleine nuit, ils démontent le pare-choc et ils s'enfuient. Et l'aventure continue en célibataire. Avant de remonter le continent américain, Jacques et Jean-Claude font un crochet par le sud. Ils passent par l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Mexique. Et au mois de juillet, ils franchissent la frontière avec les États-Unis. Et à Los Angeles, ils embarquent pour la suite de leur périple. Direction l'Asie, direction le Japon. Mais ils n'ont plus un copec. Ils sont raides comme des lacets. $10 à tout casser pour deux. Et donc, ils traversent le Pacifique en classe économique, dans une sorte de dortoir où s'entassent au moins 50 personnes, des Japonais, des Chinois, des Portoricains, des Philippins, et ça joue au poker. Et là, nos deux amis se disent, voilà une belle occasion de se refaire. Alors, pendant les 17 jours de traversée, Jacques fait équipe avec un Portoricain, Felipe. Et ils jouent au poker 24 heures sur 24. Et ils gagnent, et ils perdent. Et à la fin, quand ils arrivent au Japon, les $10 sont devenus $100. Ça ne règle pas tous leurs problèmes, mais c'est un début. Et de toute façon, à Tokyo, ils ont l'intention de travailler pour se reconstituer un petit pécule avant de poursuivre la route. Mais bien entendu, ils ne parlent pas un mot de japonais. Alors ils trouvent un emploi muet. Mannequin vivant dans la vitrine d'un grand magasin. Jacques est habillé à l'européenne et Jean-Claude en kimono. Et ils font une sorte de chorégraphie avec des gestes saccadés, un peu comme des automates. Et des dizaines de japonais s'agglutinent devant la vitrine. Et pour compléter cette mise en scène, ils ont garé la deux chevaux juste en face. Le patron explose son chiffre d'affaires. Il multiplie leur salaire par 4. Ils restent comme ça un mois au Japon. Et puis ils reprennent la route. Chine, Vietnam, Singapour, Malaisie. Et mi-septembre, ils sont en Thaïlande, dans la jungle, où il fait une chaleur humide à crever. La deux chevaux avale les kilomètres. Et puis à un moment, Jacques qui est au volant pile. Un tronc d'arbre leur barre le passage. Ils descendent, et à ce moment-là, surgissent 8 hommes, avec de grosses barbes noires et des trognes patibulaires. Et surtout, ils ont des fusils et des machettes. Ce sont des pirates venus de Birmanie. L'un d'eux enfonce son fusil dans les côtes de Jacques, et il leur retire leurs chaussures pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir. Il dit à Jacques de se mettre au volant de la Deutsche, et à Jean-Claude d'ouvrir la marche à pied, pieds nus. Et ça dure comme ça des heures. Et Jean-Claude a les pieds en sang. Il n'en peut plus. Alors, à un moment, il s'effondre. Alors les pirates échangent les places. Maintenant, c'est Jean-Claude qui conduit. Et c'est Jacques qui ouvre la marche, pieds nus. Et ça dure encore des heures. Au bout d'un moment, Jacques tente le tout pour le tout. Il saute sur l'un des pirates. Il veut lui arracher son fusil. Et là, il prend un gros coup de crosse dans la nuque. Quand il reprend ses esprits, quelques minutes plus tard, les pirates sont partis et ils sont ligotés, tous les deux, à un arbre, les jambes recouvertes de fourmis. Et petit à petit, avec l'humidité, les liens se desserrent, ils parviennent à se libérer. Et ils retrouvent la Deutsche à 100 mètres plus loin, complètement vide. Ils ont frôlé la catastrophe, mais n'allez pas croire que ça les fasse douter. L'aventure continue vers le Cambodge, le Laos, la Malaisie, l'Inde et le Pakistan. Et là, il s'engage dans un désert. Le désert du Beloutchistan, 1500 km de piste. Une chaleur écrasante. Il crève une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, ils doivent réparer en plein cagnard. Et du coup, ils perdent du temps. Et ils commencent à manquer d'eau. Ils sont épuisés. La bouche sèche, les paupières lourdes. Et pour ne pas s'endormir, Jacques déclame des strophes du Cid.
Que je sens de rude combat, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine.
Et là, à nouveau, ils crèvent. Sauf qu'ils n'ont plus de chambre à air de secours. Alors vous savez ce qu'ils font ? Au lieu de mettre de l'air dans le pneu, ils mettent du sable. Du sable, un bricolage qui ne tient que 20 km. Et ils font les 60 derniers kilomètres sur les jambes, jusqu'à la frontière iranienne. Ils n'ont presque rien bu pendant des heures. Alors quand ils passent la frontière à 4 heures du matin, ils se ruent sur le garde-frontière pour lui demander un verre d'eau, une renaissance. Et les voilà donc en Iran, face à un nouveau désert, le grand désert salé. Et là, ils embarquent des thermos entiers de thé brûlant. Et pendant 400 kilomètres, pas une crevaison, rien. Ça roule ma poule. Et puis à un poste militaire, un soldat leur permet de faire le plein d'eau. Et il leur donne un petit conseil.
You have to take salt. A lot of salt. Prenez du sel, hein. Beaucoup de sel. Et aussi une bonne corde. Comme ça, si vous vous perdez. Mais vous repérez un chameau sauvage, ils adorent le sel. Vous le capturez, vous montez sur son dos et vous vous laissez conduire jusqu'au point de vue. Il y va tous les deux, trois jours.
Ils s'engagent sur la piste, mais petit à petit, la poussière s'épaissit. Le vent se lève. Et à un moment, ils ne voient plus rien. Plus rien. Et donc, ils ne voient plus les balises qui limitent la piste. Et ils se perdent. Et pendant des heures et des heures, ils cherchent leur chemin. Ils n'ont plus que leur boussole. Et une fois de plus, ils commencent à manquer d'eau. Et surtout, à un moment, Jean-Claude lâche le volant. Il se frotte les yeux avec les poings.
Merde, Jack ! Putain, je vois plus rien ! Tout est noir !
Jean-Claude est en train de faire une crise d'ophtalmie des sables. Alors il se réfugie à l'arrière de la Deutsche dans une sorte de torpeur. À partir de maintenant, c'est sur Jacques que tout repose. Et il n'y a presque plus d'essence. Le seul moyen de s'en tirer, c'est de croiser quelqu'un. Et en attendant, ils économisent tout, même leur salive. Ils ne parlent plus, ils ne fument plus. Ils sont à bout. Et la nuit passe. Et au petit matin, Jacques a un espoir, il repère une balise. Mais il est tellement naze qu'il s'affaisse sur le volant. Et qu'il s'endort. Ils sont réveillés quelques heures plus tard par un camion. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Le chauffeur leur sert à boire, il leur donne un morceau de pastèque. Et là encore, c'est la renaissance. Le périple touche à sa fin. La Bulgarie, la Yougoslavie, l'Italie et la France. Le 11 novembre 1959, 13 mois après leur départ, ils passent la frontière française. En rentrant, ils écrivent un livre pour raconter ce tour du monde, La Terre en rond, qui paraît en 1960, et qui est un énorme best-seller. Et pour Jacques Séguéla, eh bien c'est le début de la notoriété. Il ne sera jamais pharmacien.
Voilà donc pour ce bain de jouvence, Jacques Séguéla. Ça fait du bien ?
Oui.
Ouais. Formidable. Tu m'as fait revivre mon voyage. Pardon, je te tutoie, mais moi, je tutoie tous ceux que j'aime.
Bon. Je peux vous voyer en retour.
Oui, bien sûr. Bien sûr,
bon.
On va parler l'habitude. De copinage.
Ouais. Copain, coquin. Je me demandais si, au final, vous aviez passé ce doctorat en pharmacie.
Oui, mais pas sur le sujet qui était prévu, des plantes médicinales, parce que je suis le temps d'en boire deux ou trois. mes maîtres ont accepté que je change de sujet, parce que pendant tout ce voyage, j'avais une sorte de carnet de bord pour le Midi Libre, qui est le journal de Montpellier. Moi, je dépendais de la faculté de Montpellier. Et chaque fois, j'avais un mot gentil pour la faculté, sans laquelle on ne serait pas là, etc. Et donc, en reconnaissance...
C'est-à-dire, vous avez eu votre doctorat en reconnaissance de vos articles dans le Midi Libre.
En reconnaissance de la communication. C'était ma première entrée dans la communication. Ils m'ont dit, vous êtes autorisé à changer de sujet. J'ai choisi l'officine à l'heure européenne.
Bon, vous n'avez jamais été pharmacien. Est-ce que c'est à cause ou grâce à ce voyage ?
C'est grâce à ce voyage. C'est pas gentil pour les pharmaciens, parce que c'est un des beaux métiers, un des métiers d'ailleurs préférés des Français. Mais il a changé ma vie, et je n'étais pas fait pour la pharmacie, parce que j'avais besoin d'aventures, j'avais besoin de nouveautés, j'avais besoin de liberté. Moi, ce qui était formidable dans ce voyage, c'est que d'abord, j'ai appris à aimer le monde. À l'époque, on n'aimait pas le monde, on ne connaissait pas le monde, on avait peur du monde. Et quand je pense qu'on est totalement inconscient, on est parti avec une boussole. On savait même pas avec Baudot faire le point. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS, donc on était à la... Albert nous a sauvés.
Si des cartes, des cartes, vous avez les cartes à l'avance.
On avait des cartes, on savait lire la carte. Mais incapable de se repérer aux étoiles, etc. On n'a jamais su où était l'étoile du Sud. Bon. Et on a eu beaucoup de chance dans notre inconscience, et c'est Albert qui nous a fait traverser le Sahara, sinon on ne serait jamais arrivé de l'autre côté.
Alors il y a quelque chose, je ne sais pas si vous en avez conscience, Jacques Séguéla, mais c'est que quand on le relit aujourd'hui, on y voit un livre terriblement colonial. Pardon, ça n'est pas vous insulter que de citer trois phrases. Vous dites, le Congo belge, c'est la Suisse. Une Suisse où l'on s'étonne de rencontrer tant de nègres et de voir tant de bananiers. Un peu plus loin, nous pénétrons dans la forêt équatoriale. Elle est peuplée de toutes sortes de singes, ouistités, cynocéphales, gorilles et pygmées.
Oui, j'ai honte, ça.
Mais c'est l'époque.
C'est l'époque. Et quel bonheur que quand même l'époque soit derrière nous. Et d'ailleurs, quand on est arrivé au Japon, c'est là où j'ai pris une vraie gifle qui m'a fait changer d'attitude. On a été reçu par un Japonais, et à un moment donné, dans la discussion, il dit « Nous, les Blancs ». Ah, je dis, mais écoutez, il y a une erreur, là.
Vous n'êtes pas blanc.
Il dit, ah, mais vous vous trompez, hein. Il y a la pire race du monde, ce sont les Noirs. C'était encore plus terrible que nous. Il y a les jaunes. Et puis, il y a les roses, c'est vous. Et nous, on est les blancs.
Les roses.
Donc, on est toujours le sauvage de quelqu'un. On est toujours.
Mais pour venir au pygmée, par exemple. Le pygmée, moi, je crois me souvenir. Alors, vous êtes un peu plus âgé que moi. Mais à l'école primaire, le pygmée était représenté de manière assez caricaturale.
Bien sûr, mais on avait appris ça dans les livres d'école. Et puis nos parents étaient comme ça, et puis le monde était comme ça. On ne se rendait absolument pas compte tous les hommes se ressemblent et que tous les hommes se valent.
Oui.
D'ailleurs, moi, après la découverte du monde, j'ai découvert les hommes. D'ailleurs, sans les hommes qui nous ont aidés un petit peu partout, qui nous ont invités, qui nous ont donné un peu d'argent pour continuer, qui nous ont sortis de toutes les embuscades, on n'aurait jamais fait ce voyage. Et donc, je suis revenu sur ce tour du monde en ayant changé d'attitude sur le monde, en aimant le monde, et changé d'attitude sur les gens. Les gens ne sont pas des sauvages. C'est nous qui sommes leurs sauvages. Quand on est dans un désert, le sauvage, c'est vous, le français, et c'est pas Albert qui, lui, connaît la route et vous amène jusqu'à son village.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 58, quand on s'embarque pour une épopée pareille, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Aujourd'hui, on veut aller à un endroit, on regarde par webcam à quoi ça ressemble. On prend Google Earth, on zoom, et on a une photo très exacte du terrain de camping où on va passer la nuit, du ruisseau au bord duquel on a l'intention de camper. Là, vous partez, vous ne savez rien. Qu'est-ce que vous avez comme savoir?
Il n'y a pas de guide, d'ailleurs, du monde. Il y a des guides uniquement des pays civilisés.
Oui.
Donc, on a des cartes, on a des récits. qu'on a lu, évidemment pendant 4 ans, on a lu tous les livres qu'on
pouvait
lire sur de l'aventure, etc. Ouais. Mais enfin, le monde est très différent de la façon dont les aventuriers le racontent, parce que c'est un monde que l'on vit, donc il devient différent. Et surtout, on va d'émerveillement en émerveillement.
Donc, parce qu'on n'attend rien.
Donc on n'attend rien.
On est ouvert.
Quand je pense qu'on est parti, on ne sait pas réparer une voiture ni l'un ni l'autre. On savait changer les bougies, oui. Et on savait changer les charbons de dynamo. C'est tout. Et d'ailleurs, chaque fois, ce qui est formidable à l'époque, c'était formidable dans le monde, c'est que comme toutes les voitures étaient des guimbardes, où que l'on soit, il y avait un garagiste qui savait reporter n'importe quoi.
Même une Dodge.
Et surtout une Dodge qui était la voiture la plus facile à réparer du monde. D'ailleurs, on n'aurait jamais pu faire, compte tenu de notre côté ignare en mécanique, on n'aurait jamais pu le faire avec une autre voiture que la 2 chevaux.
Ce qui est saisissant aussi quand on revisite ce parcours, c'est qu'on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Tout un tas de pays aujourd'hui ne sont pas traversables. L'Algérie, ça n'est plus traversable comme ça. Le Pakistan, évidemment, non. Et tout un tas d'autres pays.
Bien sûr.
L'Iran, vous vous rendez compte?
Ça montre combien le monde se durcit et combien à la fois il avait tort quand il traitait les blacks de nègres et à la fois combien il avait raison quand il était encore dans l'insouciance d'une paix assez mondiale, dans l'insouciance de la découverte de la modernité, dans l'insouciance du besoin de ressembler à l'Amérique ou de ressembler à l'Europe, autant de choses qui ont disparu aujourd'hui.
La voiture, tiens, petite question technique, elle est devenue quoi? Vous l'avez gardée dans un coin de garage?
Oui, on s'était promis avec Jean-Claude, on va fêter nos 80 ans d'amitié,
oui. Hein,
parce que c'est connu à l'âge de 5 ans. C'est promis à Jean-Claude, à 50 ans, de faire le tour du monde en Rolls.
c'est bien
oui,
vous,
c'était d'aussi mauvais goût que la Rolex.
Oui,
alors, par bonheur, j'ai fait la connerie de la Rolex, mais j'ai pas fait celle du tour du monde en Rolls.
Oui. Et donc, elle est où la voiture?
Mais la Dodge, Mans,
elle est au musée du 24 heures du Mans.
Citroën a été formidable quand elle est revenue, on n'avait pas un sou, et il nous a racheté la voiture à l'Argus, elle ne valait pas l'Argus,
oui.
Pendant qu'il nous a fait ce cadeau-là, et il l'a offert au Mans, et elle est au musée du Mans, je suis allé la voir, je suis allé l'embrasser, elle est là, un peu rouillée, mais j'avais tellement envie de la reprendre, de dire, allez, on recommence, on s'en refait un tour du monde.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous n'étiez pas les seuls hein, à vous lancer dans cette aventure, d'ailleurs, vous l'avez appris à vos dépens quand vous avez tenté de vous faire offrir une 2 chevaux par Citroën.
Absolument, c'était la mode, on avait déjà fait 2 ans avant, 3 ans avant, on avait déjà fait un des tout premiers raids en 2 chevaux, Perpignan-Karachi.
Oui.
Avec une 2 chevaux déjà, la même 2 chevaux d'ailleurs qu'on échangera contre une nouvelle 2 chevaux pour le Tour du Monde. Mais le Tour du Monde n'avait jamais été fait par une 2 chevaux, il n'avait jamais été fait par une voiture
donc
française.
Donc c'est le premier
Donc c'est le premier. Et c'est pour ça qu'il a eu un petit succès. Et puis, à l'époque, on racontait le monde. Aujourd'hui, le monde, bon, le monde est
dans
tous les médias, le monde est dans tous les Wikipédia, etc. Le monde est partout, il est dans le Google Earth, comme tu le disais. Donc, mais les gens ne connaissaient pas le monde. Et donc, on a fait quelques émissions de télévision, des émissions de radio, et d'Europe numéro 1. Où justement, on a senti combien les gens avaient envie du monde, alors qu'aujourd'hui, on a peur du monde.
Est-ce que il vous arrive, Jacques Séguéla, de temps en temps, de repenser à quelques épisodes de ce Tour du Monde?
Moi, j'ai la chance de beaucoup voyager, puisque Havas, c'est 100 agences dans le monde.
Oui, donc vous avez été le patron d'agence
dans
de l'agence
100 pays
Havas.
Différents. Ouais. Donc je suis toujours à 10 heures par jour à Havas. Hein. Et d'ailleurs, j'étais à Lisbonne il y a 2 jours, j'étais à New York et à Chicago il y a 1 semaine, et j'étais à Shanghai et à Pékin il y a 15 jours. Donc mon métier, c'est d'aller dans les agences, faire souffler l'esprit créatif, agiter les choses, porter la bonne nouvelle, expliquer comment la publicité évolue, vers où on va, etc. Et je suis désespéré, je ne le retrouve pas, mon monde. Il n'est plus là, c'est plus le même, il n'a plus rien à voir, il se ressemble.
C'est-à-dire qu'il se ressemble, voilà, il y a une sorte d'unification.
Oui, l'ennui n'acquitte
de lissage.
Oui, l'ennui n'acquitte un jour de l'uniformité. Et le monde s'uniformise, mais y compris le seul qui se protège un peu, c'est le Japon. D'ailleurs, un peu beaucoup. Mais la Chine, elle a remplacé New York. Et c'est extraordinaire parce que quand on va à New York, ça devient presque une ville de tradition. une ville du passé, alors qu'il y a à peine 10 ans, c'était la ville du futur. Et c'est aujourd'hui, c'est Shanghai, c'est Pékin, c'est Canton, qui sont les villes de l'avenir.
Mais est-ce qu'il vous est arrivé de citer quelques épisodes de ce tour du monde, je sais pas, à vos enfants? Vous avez eu 5, je crois.
Oui.
Est-ce que tonton Séguéla, régulièrement, au repas de famille, raconte son tour du monde?
Oui, bon, j'essaye de pas trop radoter, d'autant que je suis pas sûr que ça les intéressait. Ils n'ont pas lu mon livre.
C'est vrai. Vos enfants n'ont pas lu votre livre?
Oui. Mes jumelles, je crois que mon fils, l'a lu. Mes jumelles et ma première fille l'a lu. Mais mes jumelles, bon, elles, c'est la génération pouce. Oui. Donc tout ce qui n'est pas écrit par le pouce n'est plus lisible. Pour elle. Donc un livre, ça n'existe pas. C'est-à-dire, j'ai déjeuné avec ma fille qui prépare une thèse, etc., sur la mort du livre. Je dis, si tu fais ça, je te déshérite. Je suis désolé, mais j'accepterai pas ça. J'ai écrit 30 livres, c'est pas pour que ma fille dise que c'est la mort du livre, donc la mort de son père.
Alors, il y a un épisode qui est très, très amusant, c'est l'épisode des deux japonaises que le père voudrait vous faire épouser.
Oui, mais ce qui est très curieux dans ce
épisode des japonaises,
on n'avait pas commis le péché.
C'est-à-dire, vous ne les avez pas touchés?
Non, on ne les a pas touchés. Si, on a flirté, on s'est embrassé, mais il n'y a pas eu du tout d'acte, entre guillemets, comme on le dit. Mais je ne sais pas ce qu'elles ont raconté à leurs parents. Peut-être qu'elles voulaient nous...
Pour
qu'ils nous enlèvent. Et que, parce que c'est en plus, au Japon, c'est une chose, ça ne rigole pas au Japon. Et même toujours encore aujourd'hui. Hein, on se marie vierge au Japon, etc. Et quand on a commis le crime, on épouse pour réparer le crime. Et nous, on comprenait d'autant moins qu'on n'arrivait pas à se faire comprendre. Et on avait voulu dire, mais non, on n'a rien fait, etc. Le père ne voyait pas comme ça. Et puis, je pense qu'elles, elles avaient un coup de cœur, donc elles voulaient nous retenir.
Ouais. Justement, ça m'amène à vous poser une question. C'est un sujet dont vous parlez assez peu dans le livre, mais c'est compréhensible puisque vous le publiez en 60, ce livre. Est-ce que ce tour du monde a été une partie de jambes en l'air continue?
Mais pas du tout. Pas du tout. Il a été zéro love. Zéro love.
Sur l'oreille.
Mais bien sûr. Mais parce que, on arrivait dans un pays, 100 000 kilomètres, hein, il faut tous les jours faire 500 kilomètres. Donc, on arrivait dans un pays, on avait le temps d'aller visiter les 3 choses qu'il fallait visiter.
Vous étiez sale.
Pardon.
Ah, zéro.
Je repense.
Mon Dieu.
Mais j'ai eu une histoire d'amour magnifique, mais sur la fin du voyage, en Thaïlande.
Oui.
En Thaïlande, avec Bodo, on voit qu'il y a un film en plein air, Le pont de la rivière Kwai. Pont de la rivière Kwai. Dit qu'on va aller au cinéma. Et donc, on faisait la queue au cinéma. Et puis, dans la rue qui menait au cinéma, il y avait des restaurants qui étaient des soupes chaudes qu'on vous servait avec avec des nouilles chinoises, etc. Donc, je m'assois. Il y avait une Thaïlandaise magnifique à côté. Donc, je lui offre un bol de soupe. Comme ça, en parlant quelques mots, etc. Elle nous suit au cinéma. Elle me prend la main au cinéma. Moi, je la reprends avec la deux chevaux. Et je dis à Jean-Claude, écoute, c'était le financier. Il faut que tu me donnes 10 dollars pour une chambre. Il me donne 10 dollars. Et je commence à faire le tour des hôtels. Je n'ai pas trouvé une chambre à 10 dollars. J'étais désespéré. J'étais perdu dans Bangkok, déjà immense, etc. Ensuite, on logeait dans une station-service, une station Shell, qui était notre sponsor. Parce qu'on avait inventé le sponsoring. On avait fait le tour de toutes les marques de l'époque. On avait des moustiquaires. Alors, j'ai mis une moustiquaire dans le fond de la station Shell. Et c'est là que j'ai eu ma nuit d'amour. Et on est parti 2 jours après. Et je vois encore, c'est moi qui suis au volant, elle est là, on s'embrasse une dernière fois, on avait des amis qu'on s'était fait dans le quartier, etc., qui étaient là, qui applaudissent, et puis la voiture part, et je vois dans le rétroviseur ma Thaïlandaise qui court comme ça vers moi, comme dans un film.
Oh,
comme dans un film.
Comme un film de Lelouch.
Et c'est une histoire à laquelle je pense souvent, quand j'ai un coup de pompe, je dis, mais voilà, finalement, il n'y a que l'amour qui compte.
Est-ce que vous avez continué de dire le CID à voix haute pendant le reste de votre carrière?
Non,
ça, c'est un moment formidable.
Non, j'ai tout oublié du CID. Je n'ai rien oublié du tour. Donc, pas tellement les histoires, mais de ce moment fou qui a changé ma vie. Il a changé ma vie parce que c'était en deux chevaux. Parce que la deux chevaux me conduira à la publicité et me conduira à voir le budget Citroën qui me permettra de créer mon agence.
Parce que c'est ça la mécanique.
C'est ça la mécanique.
C'est-à-dire, c'est Expliquez-moi ça.
Ben, je reviens à Paris, j'écris le livre, et Raymond Castan, que vous avez connu, oui. Qui était le patron d'RTL, qui était secrétaire général de Match, avait reçu la demande de Prouveau, qui avait parcouru notre livre en disant ces deux mecs sont intéressants, c'est des globe-trotteurs qui couchent à la Belle Étoile, nos reporters couchent dans les hôtels 5 étoiles, invite-les pour qu'ils mettent un peu de jeunesse là-dedans. Et donc,
Jean-Claude n'est pas là. Match.
Oui, Jean-Claude lui faisait son service militaire, il ne peut pas, et je suis engagé à Match, alors moi j'ai dit, je veux bien venir, mais je voulais être pharmacien.
Oui.
Moi mon père était en train d'acheter la pharmacie Docteur Bobo, et j'étais fiancé avec la fille du marchand de chaussures chic de la ville qui s'appelait Dani. Qui s'appelait Dani, qui n'est autre que Dani Grohl, la chanteuse. Donc ma vie était tracée. Et c'est Match qui a changé ma vie et qui m'a amené ensuite à la publicité.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.